Bonjour, bienvenue, merci de votre fidélité. Nous sommes le samedi 18 avril et comme chaque semaine, eh bien nous allons parcourir le monde en revivant les événements marquants de ces derniers jours avec l'ensemble des rédactions de RFI et nos correspondants sur le terrain. Nous accorderons évidemment une grande place à l'actualité africaine dans la seconde partie de cette émission. À suivre également, juste après le flash, vos messages. Ils sont nombreux, donc continuez à nous écrire à semaine.actu@rfi.fr. Et on commence tout de suite avec celui qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Bonjour Laurent Devesy.
Bonjour.
Laurent Devesy, vous êtes professeur au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialiste des affaires territoriales. Et vous venez de publier Le Nouvel Égoïsme Territorial, Le Grand Malaise des Nations, aux éditions du Seuil. Alors dans l'introduction de votre livre, vous écrivez, après le nationalisme européen du 19e, le nationalisme décolonisateur du 20e, le nationalisme régional, s'affirme comme un mouvement d'idées et un but pour le 21e siècle, fermez les guillemets. Et sans être expert de la question, eh bien, on comprend tout de suite qu'il s'agit là d'une mauvaise nouvelle. Pourquoi ?
Parce que ça marque quand même le démarrage d'un mécanisme de fragmentation des nations. Alors on partait de bas, hein, début 20e siècle, il y avait une cinquantaine de nations dans le monde. On est rendu à 200 aujourd'hui. Et on voit un nombre croissant de pays se constituer, de petits pays.
Il y en a 30 de plus depuis les années 90, on y reviendra.
Ouais, c'est ça. Petits pays qui sont constitués de régions qui finalement n'ont plus joué, ne veulent plus jouer le jeu de la solidarité nationale dans leur pays. Qui très souvent sont des régions riches. Et qui disent, bon, et donc, on se débrouille mieux seul. Et qui marque le fait, qui inscrit un fait plus général, qui est que depuis les années 80, les grands changements économique. Je suis pas un géopoliticien, hein, je suis un économiste. Hein. Mmh. J'essaie de montrer en quoi les changements économiques et technologiques auxquels on assiste depuis les années 80 ont considérablement changé les relations entre les territoires au sein des nations et que, d'une certaine façon, pour la dire brutalement et rapidement, les régions riches et les régions pauvres qui avaient intérêt à vivre ensemble, aujourd'hui c'est moins vrai. Aujourd'hui, les régions riches n'ont plus besoin des régions pauvres au sein de leur nation, et alors que les régions pauvres ont plus que jamais besoin des régions riches. Et là, on a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du divorce qui est en train de se produire. On le voit nettement dans les pays européens. Prenez la Catalogne, prenez l'Écosse, prenez l'Italie du Nord, prenez les Flamands, les Wallons, les Basques espagnols, on peut faire une liste énorme, prenez, il n'y a pas si longtemps, les Slovènes et les Croates qui ont quitté l'ensemble yougoslave.
Alors qu'ils étaient dans de l'ex-Yougoslavie, voilà, il y a un impact.
Ils étaient plus riches. Pascal Boniface avait fait un papier dans Le Monde à l'époque, il avait montré très clairement que la fédération yougoslave s'est défaite par ordre décroissant de revenus par habitant des territoires qu'il a quittés. Hein. Donc c'est les plus riches en premier, les deuxièmes plus riches en second, etc. Et donc on voit là une tendance qui est une tendance un peu lourde. Et dans la mesure où, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, ce qui se passe dans nos pays a une grande influence sur les mouvements d'idées et sur ce qui veut produire ailleurs dans le monde, je pense que là on est en train de fournir un mauvais exemple et que cette tendance à la fragmentation des nations va rendre le monde moins solidaire, moins développé aussi. Quand vous avez à l'intérieur d'une nation, quand vous avez une région riche qui paye pour l'éducation de la région voisine d'à côté, que les petits enfants de la région puissent être éduqués, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la région riche aussi, c'est bon pour l'ensemble. Si vous avez une séparation, il n'y a plus ces mécanismes solidaires, ça va être mauvais globalement, le bilan général va être moins bon. Face aux questions auxquelles on est confronté dans le monde aujourd'hui, qui sont des questions de sécurité collective, des questions d'environnement, des questions d'accord, qu'on essaie de trouver très péniblement, on a une réunion sur l'environnement à la fin de l'année en France.
La COP21.
La multiplication des pays rend de plus en plus difficile un exercice de pilotage et de réponse aux enjeux très lourds auxquels on est confronté dans le monde aujourd'hui. Sans compter, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, que des petits pays, moi j'ai notamment travaillé sur la corruption en Afrique, dans une vie antérieure.
Vous êtes un ancien de la Banque mondiale, je crois.
J'ai travaillé pour la Banque mondiale, je sais que c'est honteux, que vos auditeurs vont raccrocher, vont zapper. Là. Mais notamment, j'avais travaillé sur la question de la corruption. On voit bien et pas que dans les pays en développement, mais aussi dans les pays en développement, un petit pays aujourd'hui est dans la main de grands intérêts légaux ou illégaux, comme un grand pays ne le serait pas. C'est-à-dire la capacité de réponse à des pressions légales ou illégales de grands intérêts est beaucoup moins forte. Et je dirais, quand on voit ce que c'est que le PIB d'un petit pays aujourd'hui, quand on voit ce que c'est que le chiffre d'affaires de la drogue dans le monde ou des ventes d'armes...
400 millions de dollars par an, vous le rappelez dans votre livre.
Bon, on peut
pour la drogue.
Je ne cite pas, mais on peut s'acheter un pays et il y en a déjà qui sont déjà achetés. Donc c'est pas une très bonne nouvelle, la fragmentation du monde.
Et on va revenir évidemment tout au long de cette émission.
Sept jours dans le monde.
Mardi dernier, Hillary Clinton démarrait sa campagne présidentielle dans l'Iowa, en plein cœur des États-Unis. La stratégie de l'ancienne sénatrice de New York est claire, écouter, passer du temps sur le terrain et surtout essayer de se défaire de l'image d'une personnalité douée pour les joutes politiques, mais éloignée des réalités du pays, Jean-Louis Pourtet.
Hillary Clinton est partie à la rencontre des Américains en s'embarquant à bord d'un modeste van pour se rendre dans l'Iowa. Arrêt dans une station-service, déjeuner dans un resto genre McDo, conversation avec les clients, Hillary délaissant jet privé, cortège avec motard et imposant service de sécurité, joue les madames tout le monde. Si elle n'a pas à craindre de compétition dans son camp, elle va avoir fort à faire avec les républicains. Le dernier à s'être présenté, Marco Rubio, lui a donné un avant-goût de ce qu'il attend.
Pas plus tard qu'hier, un leader d'hier a commencé une campagne en promettant de nous ramener à hier. Or hier, c'est du passé.
Rubio, 43 ans d'origine cubaine, se veut le candidat de l'avenir et de la nouvelle génération. Il est conservateur, mais moins radical que Ted Cruz, qui s'appuie sur les évangéliques. Ron Paul, un libertarien, plaît aux jeunes avec ses positions parfois un peu anarchistes. De nombreux autres candidats devraient se déclarer dans les semaines à venir. Et parmi ceux-ci, celui qu'Hillary Clinton redouterait le plus serait Jeb Bush, qui, plus modéré que les autres républicains, pourrait attirer à lui des électeurs démocrates et indépendants.
Et puis lundi dernier, c'est la Russie qui levait l'interdiction de livrer à l'Iran des systèmes S-300, c'est-à-dire des batteries sol-air capables d'abattre avions et missiles, dans une région embrasée par des crises et un moment où les négociations internationales sur le nucléaire iranien entrent dans leur phase finale. Et bien cette annonce a suscité interrogations et critiques. Alors comment expliquer cette volte-face du Kremlin ? Les explications de notre correspondante à Moscou, Muriel Pomponne.
C'est son prédécesseur Dmitri Medvedev qui avait suspendu la livraison des S-300 en septembre 2010. Une commande de 800 millions de dollars signée en 2007. La décision avait été prise en application de la résolution 1929 de l'ONU sanctionnant Téhéran pour son programme nucléaire controversé. Aujourd'hui, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, estime qu'à l'époque, Moscou est allé au-delà de ses obligations et est donc en droit, maintenant, de lever cet embargo.
Nous sommes convaincus qu'à l'étape actuelle, il n'y a plus besoin de ce genre d'embargo. D'autant plus qu'il s'agissait d'une décision volontaire de la Russie et qu'il n'y a aucune obligation. À noter que le S-300 est un missile à caractère uniquement défensif, qu'il n'est pas adapté pour les attaques et ne met en danger aucun État de la région, y compris Israël. Compte tenu de la situation tendue dans la région, comme en témoigne le développement rapide des événements de la semaine dernière au Yémen, les systèmes modernes de défense antiaérienne sont très importants.
L'affaire avait envenimé les relations entre Moscou et Téhéran. L'Iran s'était adressé à la Cour internationale d'arbitrage pour réclamer 4 milliards de dollars de dédommagement à la Russie. Moscou espère donc ainsi apurer le contentieux et renouer de bonnes relations avec la République islamique.
L'Irak à présent. Mardi, le premier ministre irakien Haider al-Abadi était reçu pour la première fois à la Maison-Blanche. Et lors de cette rencontre entre Barack Obama et le chef du gouvernement irakien, c'est évidemment la lutte contre l'État islamique qui était au cœur des débats. Nicolas Falaise.
Haider al-Abadi a rompu avec le discours sectaire de son prédécesseur Nouri al-Maliki, mais les dégâts seront très longs à réparer. De vastes régions irakiennes sont toujours contrôlées par l'organisation État islamique qui a pu s'y engouffrer l'année dernière en profitant de la colère de la minorité sunnite du pays marginalisée par le pouvoir chiite. Le gouvernement al-Abadi reste donc confronté à un double défi militaire et politique. La reconquête par les armes des régions tenues par les djihadistes prendra du temps. Certes, Tikrit a été reprise le mois dernier, mais combien de temps faudra-t-il pour chasser le groupe État islamique de ses autres bastions comme Mossoul dans le nord ou la province d'Al-Anbar ? 1800 frappes de la coalition internationale emmenée par les États-Unis ont seulement permis de reprendre un quart des zones conquises par les djihadistes en 2014. Politiquement, les alliés de Bagdad, États-Unis en tête, attendent du gouvernement al-Abadi qu'il mène de front des tâches particulièrement sensibles. Tendre la main aux sunnites irakiens, continuer de réformer les forces de sécurité du pays et garder à l'œil les milices chiites qui participent à la lutte contre les djihadistes. Le tout avec un budget plombé par ailleurs la baisse des prix du pétrole.
Laurent Davezy, on l'a dit, on assiste à une fragmentation des nations. Depuis 1990, on a vu apparaître une trentaine de nouveaux pays. Alors la République tchèque, l'Érythrée, le Soudan du Sud, pour ne citer qu'eux. Il y a aussi les nouveaux États autoproclamés, mais non reconnus par l'ONU. On pourrait parler du Somaliland, de l'Abkhazie. Et puis, est-ce que vous appelez les zones grises qui échappent au contrôle étatique et qui sont les bases de groupes armés ou de narcotrafiquants? On pense au Triangle d'Or en Asie, à une partie du Sahel. Quelles sont les causes et les conséquences de cette fragmentation?
Alors, je dis, moi, je ne suis pas géopoliticien. Donc, il y a toutes sortes d'origines de ces conflits qu'on doit rechercher du côté ethnique, culturel, tribal, que je connais un peu, mais qui n'est pas mon domaine. En revanche, en tant qu'économiste, je m'intéresse plutôt à qui profite le crime.
L'économie de la drogue, par exemple, vous en parlez tout à l'heure.
Oui, c'est la question, clairement, du pognon. C'est beaucoup des questions, c'est beaucoup de questions de sources. Vient se greffer là-dessus des questions religieuses, bien sûr. Les zones pakistanaises, de ce qui est en train de se passer avec l'État islamique, où là c'est effectivement une question qui renvoie beaucoup à des questions autour de l'islam, encore que on y retrouve aussi des questions d'intérêt en termes de matières premières, d'accès à la ressource, donc grosso modo c'est dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, effectivement on voit de façon accélérée un certain nombre de pays. Alors c'est d'une nature qui est pas exactement la même qu'on va retrouver dans des pays en développement sur l'accès au et le contrôle d'une ressource. À l'époque, le Biafra, par exemple, sur la question du pétrole, le Katanga, sur le cuivre. Mais on peut retrouver des choses du même type si on parle aujourd'hui. Alors, faut rester très très calme, mais la question, par exemple, dans les pays industriels d'une région comme, enfin, on prend la Catalogne, par exemple, qui finalement crée beaucoup de richesses, qui sont en partie prélevées et redistribuées ailleurs. En Espagne, ce qu'il y a derrière la question catalane, c'est la question de « I want my money back ». Je veux arrêter.
La fameuse phrase de Margaret Thatcher à l'époque.
Ouais, je veux récupérer mon pognon. Excusez-moi pour dire les choses de façon claire. Donc ça se décline, que ce soit de façon très brutale sur notamment des ressources en matières premières, ou que ce soit de façon plus sophistiquée, plus soft. Moins brutal, d'autant qu'on a affaire quand même en Catalogne, il y a des gens qui se répartissent plutôt entre la gauche et le centre, on n'est pas en Italie du Nord où les choses sont dites de façon plus brutale, ou au nord du Mexique où elles le sont encore plus brutalement exprimées en termes de rupture entre le nord et le sud du pays. Mais ce qu'il y a partout, c'est la question de la ressource. S'accaparer ou ne pas vouloir partager les richesses.
Alors, cette multiplication des petites nations pose problème, vous en parliez tout à l'heure, puisque ça le rend difficile, évidemment, les négociations sur les grands sujets qui concernent tout le monde. On pense au réchauffement climatique, à la lutte contre les épidémies. Pourtant, eh bien, il y a eu certaines grandes avancées, comme l'abolition de la peine de mort, qui sont le fait de ces petites nations. Il y a donc une double lecture.
Oui, il y a un dilemme, il y a une controverse, il y a un débat. Il y a des gens qui défendent effectivement la fragmentation parce que, je pense notamment à Causandé qui avait écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit, où il montrait que la vitalité de la recherche, des innovations européennes était liée au fait que c'était dans les siècles passés, que c'était un continent qui était très fragmenté et que finalement, ce qui était interdit ici pouvait être autorisé là. Une innovation trouvait toujours un endroit où elle pouvait se développer, et que finalement, que cette fragmentation a permis de progresser. De la même façon, si on prend des progrès non pas techniques, mais des progrès du point de vue humain, comme la question effectivement de la peine de mort, la question de l'avortement, enfin on peut discuter si c'est un problème ou pas.
L'euthanasie, bien sûr, c'est un sujet de société.
Si on est vrai, des sujets, c'est vrai que si on est favorable, ce qui est mon cas d'ailleurs, à ces évolutions, le fait d'avoir des législations différentes, donc une certaine fragmentation, a permis effectivement de pouvoir avancer dans certains endroits et que ça suive derrière. Si on avait eu un régime, si l'Europe était totalement unitaire, les États-Unis n'étaient pas une fédération d'États mais étaient totalement unitaires, est-ce qu'on aurait eu les mêmes progrès? C'est pas sûr. Les petits pays permettent aussi d'expérimentation. On voit, on fait des salles de shoot en Suisse, on regarde ce que ça donne, on dit tiens, pas mal, c'est utile, c'est pas utile, machin, on discute. Et si on trouve que c'est intéressant, on le développe. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est la partie, je dirais, positive de la fragmentation. La partie négative, c'est que là, il faut 3 quarts d'heure pour développer. Plus on est nombreux et on se regroupe sur des intérêts très locaux dans un petit pays, plus on est nombreux, plus c'est difficile de trouver un consensus, un accord entre les différents pays. très souvent, on le voit, enfin, on le voit déjà, pour les statistiques de l'OTAN. Alors moi, je suis pas pour la guerre, hein, loin de là. Enfin, dans le monde dans lequel on vit, on ouvre votre radio tous les matins, c'est assez effrayant. Ça tire dans tous les coins. Quand vous regardez, par exemple, ce qui a été dit par les Écossais dans la campagne de l'été dernier sur l'indépendance, ils disaient, ah ben, nous, si on est indépendant, l'argent qu'on donne au Royaume-Uni pour la défense, ça va aller plutôt à la recherche et à l'éducation. Merveilleux. Superbe. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec une Europe dans laquelle vous avez quelques gros pays qui continuent à assurer des
défenses. Qui financent la défense, voilà.
Et vous avez, je mets dans le bouquin, je mets la liste.
Des petits pays comme la Lettonie, qui ont 0,4% de leur budget pour la défense.
On pourrait imaginer que tout le monde fasse le même effort, mais un petit pays, évidemment, si on met 3% du PIB de la Lettonie dans la défense, ça sera moins que 3% du PIB du Royaume-Uni, bien sûr, ou de la France. Le problème, c'est que c'est pas ça. C'est 3 ou 4% dans le Royaume-Uni en France, et c'est 1% en Lettonie, ou 0,5%. Et donc, là, il y a un véritable problème qui, effectivement, cette fragmentation, si on prend à l'échelle européenne, quand même l'Europe c'est 500 millions d'habitants, c'est l'endroit le plus riche du monde, c'est un endroit d'innovation extraordinaire, c'est un endroit où on a une expérience militaire quand même relativement sérieuse, hein, sur les siècles passés. On a une industrie de défense cocorico, le Rafale que nous vendons maintenant.
C'est tout récent.
Enfin bon, ça on peut le dire maintenant. Hein. Et on est un pays qui a pas de défense commune. On a une organisation qui a pas de défense commune. Au moment où il y a des empires américains de toute nature, hein, américains, russes, chinois, voire indiens, où ces questions ne se posent absolument pas. Il y a pas aujourd'hui une mouvement d'indépendance du Delaware aux États-Unis. Il y en a plus en Russie, en Chine, mais ils sont tenus d'une main de fer, hein, par les. Et donc on a une situation où cette fragmentation finalement ne permet pas d'assurer, pose des problèmes pour passer des accords de sécurité collective ou des accords sur, on l'a dit, l'environnement, etc., mais ne permet pas non plus d'assurer des conditions de sécurité collective. Aujourd'hui, on est dans une situation de fragmentation totale de la défense. Et je répète, dans le monde dans lequel on est, c'est pas forcément rassurant.
Jours dans le monde.
Suite d'une semaine d'actualité, direction la Colombie à présent. Dans la nuit de mardi à mercredi, les FARC ont attaqué une patrouille de l'armée colombienne, faisant 10 morts et 17 blessés graves. Et cette attaque, la plus meurtrière depuis le lancement du processus de paix, relance les critiques sur la lenteur du dialogue avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, ouvert en novembre 2012 à Cuba. Marie-Ève de Teuf.
Consternation et indignation, les réactions suscitées par la mort des 10 militaires sont d'autant plus vive que les FARC avaient décrété en décembre dernier un cessez-le-feu unilatéral et qu'il était respecté. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé le président Santos à ordonner en mars la suspension des bombardements contre les camps guérilleros. Alors que s'est-il passé dans le département du Cauca? Les autorités affirment que les soldats étaient victimes d'une attaque préméditée menée par un détachement d'élite des FARC. La question d'une éventuelle dissidence au sein de la guérilla est posée. À La Havane, les chefs guérilleros évoquent une action défensive et accusent l'armée qui n'a jamais cessé ses opérations terrestres. Les FARC réclament depuis des mois un cessez-le-feu bilatéral, mais la droite dure et les militaires qui ne croient pas à la volonté de paix de la guérilla n'en veulent pas. Le président Santos n'avait guère d'autre choix que de décréter la reprise des bombardements. Va-t-elle freiner les négociations de La Havane ou au contraire les accélérer? C'est ce qu'espèrent les plus optimistes.
C'était il y a tout juste une semaine, un tête-à-tête historique entre le président américain et son homologue cubain Raúl Castro à Panama. Une première depuis que les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en 1961, année de naissance d'un certain Barack Obama. Anne-Marie Capomaccio.
La réouverture des ambassades est prioritaire. Barack Obama et Raúl Castro en ont parlé. Le processus devrait à présent s'accélérer. Washington demande une liberté de mouvement totale pour ses diplomates et un accès libre à sa représentation pour tous les Cubains. La Havane, de son côté, attend d'être retirée de la liste des pays soutenant le terrorisme. On sait que le département d'État a envoyé sa recommandation à la Maison-Blanche. Barack Obama doit rendre publique sa position. Cette décision est cruciale pour l'économie cubaine. Le retrait de cette liste signifie des relations qui s'ouvrent avec tous les pays tenus par ces restrictions. Reste ensuite à régler d'autres dossiers importants aux yeux de Raúl Castro. L'embargo, bien sûr, le statut privilégié, trop privilégié, accordé par les États-Unis aux Cubains qui font défection, ou la base de Guantanamo, la liste n'est pas exhaustive.
Laurent Davezy, vous restez avec nous. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes après le flash. Nous reviendrons sur l'actualité française et africaine. À tout de suite. Et pour ces informations, on se retrouve tout de suite pour revivre 7 jours d'actualité avec la rédaction.
Une semaine d'actualité. Igor Strauss.
Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Laurent Davezy, professeur au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialiste des affaires territoriales, qui vient de publier Le Nouvel Égoïsme Territorial, le grand malaise des nations, aux éditions du Seuil. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur l'actualité africaine de la semaine, mais d'abord un rappel de ce qui s'est passé en France.
Jour en France.
Et on commence avec un rapport sur la citoyenneté qui préconise, entre autres, le vote obligatoire en France. Il a été rédigé par les présidents des deux assemblées à la demande de François Hollande après les attentats de janvier à Paris. Léa Ticlette.
Pour Gérard Larcher, il y a quatre pistes de réflexion sur la citoyenneté. Le rôle de l'école, le contrôle des flux migratoires et l'accès à la nationalité, les zones rurales et les cultes. Une approche propre au président UMP du Sénat. De son côté, le président PS de l'Assemblée n'aborde pas la question de l'immigration ni celle des cultes. Pas de lien, dit-il, avec le sentiment d'appartenance républicaine. C'est d'ailleurs un des motifs pour lesquels les deux hommes ont préféré travailler séparément. De son côté, donc, Claude Bartolone a travaillé sur la question de l'action citoyenne au sein de la société. Un vote obligatoire à chaque élection permettrait, d'après le président des députés, de renforcer le lien avec la République. Les autres pistes visent à renforcer l'engagement associatif des jeunes par l'organisation de stages en association, l'intégration de l'engagement bénévole dans le calcul des heures de formation et la définition d'un nouveau statut d'association d'utilité civique. Les deux rapports confondus, ce sont près d'une centaine de propositions qu'ont soumis les présidents du Parlement. Des propositions qui pourront nourrir les programmes des partis politiques ces prochaines années.
France toujours, mais avec un lien direct avec l'actualité africaine. On en sait un peu plus sur le contenu des documents de la présidence française sur le Rwanda. Nicolas Champeau.
Des centaines de documents présidentiels sur le Rwanda de 90 à 95 sont conservés aux archives nationales, mais seuls 70 sont accessibles au public. Les autres ont été émis par le Quai d'Orsay et le ministère de la Défense qui n'ont pas encore achevé leur déclassification. La moitié des 70 documents disponibles portent sur la période du génocide et comprend une note sur l'attentat du 7 avril 94 contre l'avion du président rwandais Juvénal Habyarimana. La plupart des pièces ont été rédigées par les conseillers Afrique et les chargés de mission du président François Mitterrand. On retrouve aussi des documents émis par le secrétaire général de l'Élysée d'alors, Hubert Védrine. À noter, les notes de Jean-Christophe Mitterrand ne couvrent que les années 87 et 88, alors que le fils du président défunt a été conseiller des affaires africaines jusqu'en juillet 92. Les documents du Premier ministre ont, eux, été déclassifiés dès le 24 décembre dernier. Certains portent sur l'opération militaro-humanitaire controversée turquoise, qui semble absente du fonds présidentiel déclassifié. Le responsable du pôle chef de l'État aux archives nationales estime que le fonds de l'Élysée sur le Rwanda est loin d'être incomplet et il insiste, les documents qui n'étaient pas estampillés confidentiels défense sont eux aussi très riches en enseignements.
Laurent Davezy, il y a aujourd'hui plus de 300 mouvements régionalistes dans le monde, 40% en Europe, 25% en Asie et 17% en Afrique. Comment expliquez-vous que l'Europe soit largement en tête de ces revendications régionalistes ?
Parce que en Europe plus qu'ailleurs, en tout cas plus que dans les pays en développement, les mécanismes de solidarité redistributive, ce que j'ai appelé dans le livre le système de cohésion territoriale à l'occidental en fait, hein, s'est développé extrêmement fortement, beaucoup plus qu'ailleurs. On vous dit tous les jours à la radio que les dépenses publiques et sociales représentent 57% du PIB. Ça veut dire en clair que 57% de la richesse créée et dépensé via des tuyaux d'action publique ou d'action sociale. De la même façon, vous avez des individus qui décident de quitter la France pour s'installer à Genève, et disent « je veux plus payer ». De la même façon, vous avez des territoires plutôt riches qui disent « on veut plus payer ». Et ça, c'est dit de façon tout à fait explicite dans les territoires comme l'Italie du Nord, par exemple. La Ligue du Nord, elle a dit très clairement « il y en a marre pour payer pour ces gens du Sud ». Si vous prenez les grands pays européens aujourd'hui, on est à plus de 50% du PIB, hein, qui fait l'objet de redistribution. Et ben ça veut dire que là, l'intensité des mécanismes de redistribution entre régions riches et régions pauvres est plus forte que nulle part ailleurs sauf aux États-Unis, où vous avez la même chose, en tout cas sur le budget fédéral, qui a des très puissants effets distributeurs. Et évidemment, vous n'avez pas ça aujourd'hui en Tunisie, ou au Zaïre, ou en Thaïlande. Si vous voulez, on est arrivé à un moment de l'histoire, on est en 2015, où vous avez des phénomènes de redistribution de la richesse créée entre les territoires riches et les territoires pauvres, qui sont absolument prodigieux, qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité, sans violence, dans le système démocratique, c'est accepté. Et évidemment, vous avez des perdants et des gagnants à ce jeu-là. Et les perdants, entre guillemets, les perdants bien sûr, sont ces fameuses régions riches qui, tant qu'elles profitaient finalement, elles utilisaient les régions pauvres pour la fabrication, pour la consommation, elles acceptaient de jouer ce jeu-là. Mais si vous me donnez une seconde, je prends par exemple le Mexique. Moi, j'ai interviewé le ministre de l'économie du Nuevo León, qui est un des États les plus riches du nord du Mexique. Il me disait, au Mexique, on parle de façon assez crue, c'est pas langue de bois, il disait, nous, tant que le Mexique était un pays fermé jusqu'en 86, les barrières douanières étaient assez importantes, quand on finançait par la redistribution les États du Sud, les États du Sud nous rachetaient en contrepartie. Ils achetaient des choses avec cet argent. Comme les Italiens du Nord disaient, on finance le Sud, mais au Sud, ils achètent des Fiat et des Vespa.
Et des Vespa. Vous le citez dans votre livre, cet exemple.
Oui, mais c'est très frappant. Quand on voit les chiffres, c'est
extrêmement... Mais avec la durée, justement...
Ce que me dit mon ministre mexicain, il me dit, à partir du moment où on a ouvert les frontières, nous, on finance le Sud... Avec ça, ils achètent des produits chinois et coréens, alors que nous, on n'a jamais été autant en compétition avec le Texas qui est juste derrière la frontière. Donc ils se poussent, on joue plus. Et à un moment donné, ils se sont calmés, parce que le narcotrafique a pris une telle importance que ça a calmé le monde. Et je dirais même que le Mexique recentralise actuellement, à cause des problèmes de narcotrafique. Mais à l'époque, c'était au début des années 90. À un moment donné, rappelez-vous, il y a eu un mouvement des États dits de la frontière du nord du Mexique, disant on veut plus jouer de jeu. Parce que vous trouvez ce type de situation dans les pays qui ont des très puissants mécanismes de redistribution, qui aujourd'hui sont remis en cause dans beaucoup de ces régions riches. Et ces régions riches, vous les trouvez beaucoup en Europe.
Avec le découpage brutal de l'Afrique, on s'attendait à voir le continent africain dans le pelon de tête. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est pour autant une bonne nouvelle pour l'Afrique ?
C'est compliqué, parce que il y a eu la fabrication des nations européennes par les puissances coloniales qui ont finalement entériné les mouvements de décolonisation, les mouvements de libération, ils sont restés sur les frontières. Donc c'est vrai qu'on a des frontières qui sont un peu étranges.
Elles sont droites.
Ouais, et qui, dans un certain nombre de cas, font qu'on va mettre dans un même pays des grandes ethnies extrêmement différentes, et que dans beaucoup de pays africains, finalement, il y a quand même une espèce de lutte tribale, pour le pouvoir, avec des différenciations fortes, et qui sont pas régions riches, régions pauvres, pour le coup, mais c'est vraiment plutôt les origines. Et donc, c'est un découpage qui peut provoquer, effectivement, des rivalités assez fortes. Mais je répète, si vous prenez les exemples passés, espérons qu'il n'y en ait pas trop à l'avenir, Cabinda, Katanga, le Chaba actuel, Biafra, on avait des choses du même tonneau, c'est-à-dire des régions qui avaient des ressources importantes, qui d'ailleurs étaient très largement conseillées par des pays occidentaux qui avaient des intérêts vis-à-vis de ces matières premières, et qui ont créé des conflits régionalistes extrêmement brutaux, et coûteux, en tout cas pour Biafra et pour Katanga.
Dès qu'il y a un pays pauvre, il y a moins d'inégalités interrégionales. Vous prenez l'exemple du Burkina Faso, c'est ainsi qu'il en va.
Baladez-vous en
Afrique.
C'est ainsi qu'il en est, pardon. Oui, c'est qu'il en est, qu'il en va. Baladez-vous, passez du Burkina Faso, vous allez voir tout le monde est pauvre. En gros, passez au Maroc, c'est un pays qui est déjà beaucoup plus riche. Et là, vous allez voir vraiment une différenciation. Si vous êtes en bagnole, vous allez, ici, il y a des bidonvilles, et là, il y a des villas extrêmement riches. Et ça, on le sait bien, les économistes le savent. Dans une phase initiale de développement, le développement est associé à une croissance très forte des inégalités. Pour une raison simple, si le Burkina Faso, demain, devient un pays riche, c'est pas parce que tout le Burkina Faso s'est enrichi. C'est parce qu'il y a un endroit, un certain type de secteur, la transformation du coton, qui se met à marcher du feu de Dieu. À ce moment, ils s'enrichissent.
Qui va financer les autres.
Ça va tirer l'économie du Burkina Faso, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, dans un premier temps, il y a une région qui va s'enrichir terriblement, ça va creuser les inégalités. Et donc, tout le problème du développement, aujourd'hui, c'est que, au développement, en phase initiale, est associée une explosion des inégalités. Prenez la Chine, prenez l'Inde, prenez le Brésil aujourd'hui. On a en même temps eu une très forte croissance, qui est une excellente nouvelle. Une très forte baisse de la pauvreté, c'est génial. Mais une énorme augmentation des inégalités sociales et territoriales. Or, c'est le moment qui est difficile. Ce moment où les inégalités, c'est-à-dire où vous avez vraiment embrayé sur le développement, ce qui est seulement encore un peu embryonnaire aujourd'hui en Afrique, hein, mais quand vous avez embrayé dans le développement de façon très sérieuse, vous commencez vraiment à vous développer, à ce moment-là est associé un moment de risque de rupture très important, parce que c'est le moment maximal des inégalités territoriales. Et là, vous pouvez avoir effectivement des clashs.
Sept jours en Afrique.
Et on commence avec le Mali. Mercredi, un camp de la MINUSMA a été une nouvelle fois visé par une attaque kamikaze dans la région de Gao. Christine Muratet.
Les enfants jouaient au foot ce mercredi matin lorsqu'un véhicule 4x4 blanc a explosé à l'entrée du camp de la MINUSMA dans Sango. Les deux gamins ont été tués sur le coup ainsi qu'un autre civil à l'intérieur du camp. On dénombre 16 blessés, dont 9 casques bleus nigériens. Selon le député dans Sango, le 4x4 n'avait pas suivi la route de Gao, mais arrivait de la brousse et se dirigeait à grande vitesse tout droit sur la zone militaire onusienne. La sentinelle l'a sommé de s'arrêter et a tiré dessus, provoquant l'explosion du véhicule chargé d'explosifs, selon l'élu. Les blessés graves ont été évacués sur l'hôpital de Sévaré, selon la MINUSMA, qui dénonce cette nouvelle attaque contre les casques bleus. 40 soldats de la MINUSMA ont trouvé la mort au Mali depuis le début de l'intervention. Pour Abdoulmalik Diallo, le député d'Ansongo, par le passé des tirs de roquettes avaient déjà visé le camp onusien, mais c'est la première opération kamikaze que l'on déplore dans ce secteur. Des habitants rapportent la présence de véhicules suspects ces derniers jours dans cette zone d'Ansongo.
Et puis, drame de l'immigration. Cette semaine encore, environ 400 migrants ont péri noyés dans un naufrage en Méditerranée, alors qu'ils tentaient de gagner l'Italie à partir de la Libye, selon des rescapés. Le navire, qui transportait quelques 550 personnes, a chaviré 24 heures après avoir quitté les côtes libyennes. Et malgré le danger, ils sont de plus en plus nombreux à faire de la Libye un point de départ pour l'Europe. David Bachet.
Pour gagner l'Europe sur des embarcations surchargées et de mauvaise qualité, les migrants d'Afrique subsaharienne partent majoritairement de Libye. Alassane Diko, de l'association malienne des expulsés.
Les migrants, ils sont à la recherche d'opportunités. Et il y a les risques, mais ils voient plutôt l'opportunité. On s'est dit que la Libye va être en reconstruction. Ils trouvent favorablement du travail. C'est vrai qu'il y a des troubles armés. En Libye encore, c'est un peu le chaos. Il y a des départs organisés sur les côtes libyennes. Et en lien avec soit les groupes armés ou en lien avec les autorités locales de la région.
Au moins un millier d'euros pour tenter la traversée. Avant cela, les migrants qui partent du Mali ou transitent par ce pays déboursent une somme équivalente pour arriver jusqu'aux côtes libyennes. Un voyage coûteux et dangereux. Alassane Diko.
Il y en a qui ne supportent pas la température, il y en a qui restent au bord de la route, ça c'est clair. Et les trafiquants, ils n'ont pas le temps de reprendre quelqu'un qui est tombé, qui, voilà. Dans le désert, souvent les véhicules tombent en panne, ils font deux jours quelque part sous les dunes, cachés, et il y a le manque d'eau, il y a le manque de nourriture. Souvent, il y en a qui veulent faire 100 pas ou alors aller faire des besoins, ils se perdent. Ça, c'est très fréquent dans le désert.
L'association malienne des expulsés estime qu'au moins 5 à 600 Maliens tentent chaque année de rejoindre clandestinement l'Europe.
Le Nigeria, à présent, où le parti du nouveau président, Muhammadu Buhari, a le vent en poupe. Dimanche, il a remporté les élections des gouverneurs. Sébastien Nemeth.
C'est une véritable claque pour le PDP. Au pouvoir depuis 16 ans, le parti du désormais ex-président Jonathan s'est fait balayer dans une bonne partie du pays. Pour Djibrin Ibrahim, professeur de sciences politiques à Abuja, le mouvement était devenu négligent, arrogant, persuadé qu'il s'éterniserait au pouvoir, notamment parce qu'il n'avait personne en face de lui. Or, en février 2013, lorsque pour la première fois, les quatre principales formations d'opposition se sont unies pour former l'APC, la donne politique a totalement changé. Au nord, le PDP a ainsi perdu la quasi-totalité des États qu'il contrôlait, Jigawa, Kaduna, Katsina, Kebbi et Adamawa. Il a aussi été dépossédé de régions clés comme Lagos, rare compensation, sa victoire au sud dans le riche état pétrolier de Rivers. Vainqueur de la présidentielle fin mars, l'APC surfe sur sa victoire, mais pour Djibrin Ibrahim, ce critère est secondaire. Pour lui, la baisse considérable des fraudes et la domination de la bonne gouvernance comme thème de campagne sont les véritables clés du scrutin, ajoutant que le camp Jonathan a pâti de son image d'administration corrompue. L'enseignant estime qu'enfin, ce vote reflète le poids réel des partis sur le terrain.
À noter aussi dans l'actualité africaine, la disparition d'André Mba Obame, le principal opposant politique au Gabon. En Afrique du Sud, les violences xénophobes se poursuivent, cette fois dans la région de Durban, après les propos du roi Zoulou, la plus haute autorité de la région, appelant les étrangers à partir. Et on termine avec la Guinée-Conakry, où de violents affrontements ont eu lieu entre la police et les partisans de l'opposition. Olivier Roger.
Pour l'opposition, les forces de l'ordre ont tiré sur les manifestants. Pour le gouvernement, l'origine des coups de feu n'est pas déterminée et des gendarmes auraient essuyé des tirs mais sans être atteints dans le quartier de Hamdalaï. De nombreux habitants de Conakry ont vécu la journée d'hier comme un cauchemar. Dans le quartier de Kosa, par exemple, des tirs sporadiques ont résonné durant plusieurs heures, tandis que sur l'axe Bambeto-Hamdalaï, des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants durant la matinée d'hier. Au total, l'important déploiement policier a empêché les manifestants de se rassemblés devant les mairies des 5 communes de Conakry. Mais si le gouvernement a remporté l'épreuve de force, le problème politique reste entier. Le dialogue est au point mort. Le parti au pouvoir accuse l'opposition de vouloir créer l'instabilité et l'opposition rétorque que le régime prépare un hold-up électoral pour la présidentielle d'octobre prochain.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Vos messages, ils sont nombreux et on vous en remercie. Bonjour à Vital de Yaoundé. Il salue ses camarades auditeurs de justice de l'école de la magistrature, notamment ceux qui sont en stage à Brazzaville. Bonjour à Noël Souma au Tchad qui nous dit « Je salue toute votre équipe et mes amis de la faculté de lettres, arts et sciences humaines. Je souhaite que les cours reprennent le plus rapidement possible dans les facs de N'Djamena et on vous le souhaite aussi. » Un salut également à Hassan en Guinée, à Mamadou en Libye, à Siaka, à Bamako. Merci de votre fidélité. Surtout, continuez à nous écrire à semaine.actu@rfi.fr.
Une semaine d'actualité.
Laurent Davezil, il y a les causes identitaires anciennes et fait nouveau. Dorénavant, certaines régions riches ne veulent plus payer pour les régions pauvres. C'est ce que vous nous disiez au début de cette émission. Il y a en tout cas ce que vous avez appelé la parabole du catalan et du toulousain. Expliquez-nous tout parce que c'est vraiment révélateur de la situation en Europe.
Oui, on a une situation paradoxale, c'est qu'en Europe, on vous dit il y a la cohésion qui est un des grands objectifs européens, il y a une direction générale de la cohésion et des politiques régionales qui veille à ce que finalement les inégalités entre les régions européennes se réduisent. La vérité, c'est que le budget de la Commission européenne est extrêmement faible, hein, 1 point de PIB des pays européens, le potentiel de redistribution entre l'Allemagne du Nord et le Portugal du Sud est proche de zéro, c'est pratiquement rien, c'est epsilonesque en tous les cas. Alors qu'au même moment, les mécanismes de cohésion en Europe sont strictement nationaux. Et donc finalement, une région riche française paye pour des régions pauvres, et une région riche espagnole paye pour une région pauvre espagnole. Le seul défaut du truc, c'est que la région pauvre française qui bénéficie de transferts des régions riches, Languedoc-Roussillon par exemple, peut être à un niveau de développement équivalent de la région riche espagnole, la Catalogne par exemple.
Voire elle, supérieure même.
Voire supérieure, je parle du Midi-Pyrénées, alors que la Catalogne, elle paye pour l'Andalousie. Et donc vous avez une situation qui est terrible, parce qu'on parlait tout à l'heure, je vous ai dit l'Italie du Nord, ils sont assez brutaux, ils disent on a marre de payer pour les gens du Sud, on fout l'argent par les fenêtres, ce que vous voulez. Bon, les Catalans, c'est plus composite hein, politiquement en ce qui est en Catalogne, ils ont un discours qui est un discours, ils disent c'est complètement injuste. On est dans un système européen qui est fait pour la cohésion avec une intégration du marché, sauf que les règles du jeu sont injustes, parce que la région qui est juste derrière nous, tout circule, hein, le Languedoc-Roussillon, finalement, eux, ils bénéficient de transferts en France, alors que nous, en Espagne, on paye des transferts pour les autres. Et finalement, si vous prenez les chiffres, quand le Languedoc touche en gros 10% de son PIB de subventions implicites, par les jeux des prélèvements dépenses, la distribution, la Catalogne, elle en perd 5 ou 6. Et donc, si vous voulez, au total, le même acteur, selon qu'il est à Montpellier ou à Barcelone, il va avoir 16 points de PIB de différence, de résultat après prélèvement. Que disent les Catalans? Ils disent de toute façon, on parle pas français, parce que dans un monde merveilleux que...
Le catalan se serait déplacé en Midi-Pyrénées, sauf qu'il ne parle pas la langue.
Sauf qu'il n'y a pas d'intégration réelle. Donc que fait le catalan? Il va voir le gouvernement à Madrid, il dit ras-le-bol de payer des impôts au gouvernement central qui vont aller financer le Sud, ça nous pénalise, c'est injuste, donc il négocie pour qu'une part importante des impôts payés par les Catalans reste en Catalogne. Et donc c'est ce qui s'est produit d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit, les Catalans ont soutenu le gouvernement central en échangeant un deal pour qu'on baisse leur contribution. Donc finalement, ce mécanisme de cohésion européenne, aux États-Unis, la cohésion est très forte. 66% des impôts des Américains vont au gouvernement fédéral et vont être dépensés avec de très puissants mécanismes de redistribution, sur lesquels personne ne gueule d'ailleurs. L'Europe et les Américains ne parleront jamais de cohésion. Moi, j'ai participé à des groupes de travail avec des secrétaires d'État américains. Ils veulent même pas entendre parler du mot de cohésion. Mais ils le pratiquent. Alors qu'en Europe, c'est l'inverse. Il y a deux objectifs à l'Europe, hein, intégration économique et cohésion. Sauf que notre système de cohésion, totalement fragmenté, dont on nous dit qu'il est européen, en fait, il est confié à des nations inégales, crée des situations d'inégalité où un territoire à niveau de développement égal, selon qu'il est riche ou pauvre, dans son pays, sera contributeur net ou bénéficiaire net à ces mécanismes de cohésion, ce qui veut dire que l'Europe traite des territoires égaux de façon très inégale.
Et en même temps, les régions riches d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui, les régions riches d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain. Vous le rappelez avec le Nord-Pas-de-Calais, le Michigan aux États-Unis, qui ont été, qui ont comporté l'économie de ces deux pays à l'époque et aujourd'hui qui sont des régions pauvres.
C'est cyclique. Dans un monde où les choses changent vite et changeront de plus en plus vite, où les avantages comparatifs se modifient extrêmement rapidement, ce qui est joli dans ces fabrications nationales, alors je sais que ça fait très ringard de défendre la nation, hein, aujourd'hui c'est mal vu, même on peut soupçonner d'avoir des ce qui n'est pas mon cas, j'espère. Moi.
Vous êtes très à droite.
Non, du tout. Excusez-moi, la collection que je publie, une collection de gauche, je suis à Terra Nova.
Vous n'avez pas à vous justifier.
Donc, c'était une... Alors, je suis à droite de la gauche, si vous voulez. Ça dépend de vous parler. Mais si je reprends, sur la longue période, la nation, c'est un mécanisme assurantiel, social et territorial de longue période. Quand les Nord-Pas-de-Calais étaient riches, ça a permis d'équiper de route la Bretagne et le Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, Nord-Pas-de-Calais est en grande difficulté et bénéficie de transferts, idem pour le Michigan. Détroit, c'était une ville phare de l'industrie américaine il y a 30 ou 40 ans. Elle a contribué à la solidarité fédérale au profit de l'Alabama ou de... Aujourd'hui, le Michigan est en difficulté, il bénéficie... Et ça tourne. Donc c'est un mécanisme qui est quand même extrêmement vertueux, sachant qu'en plus, il faut pas trop se faire de fixation sur les territoires. Les populations, si vous regardez la France, les gens circulent. Vous n'êtes pas assigné à résidence en Bretagne, en Aquitaine ou dans le Limousin. Et donc finalement, tous ces mécanismes sont, à mon sens, c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, sont des mécanismes plutôt vertueux et qui sont assurantiels au sens d'une assurance, pas au sens d'une philosophie altruiste où vous êtes pauvre, je vais vous aider. C'est du sens où on a tous intérêt, de la même façon, on a intérêt à s'acheter une assurance pour sa bagnole. De la même façon, ces mécanismes-là sont des mécanismes assurantiels de longue période, je répète, sociales et territoriales.
La révolte des régions riches préfigure-t-elle une rupture majeure dans l'organisation des sociétés modernes ?
J'espère que non, mais ça pourrait. Vous voyez bien que Flandre-Wallonie, c'est en train de... Le divorce va vraiment être prononcé. Les Italiens du Nord, pour l'instant, ils se sont un peu calmés, la Ligue, mais ils ont décidé maintenant de devenir un parti national, un grand parti national de droite, vu que Berlusconi est quand même un peu en difficulté, le moins qu'on puisse dire. Donc ils essayent de ramasser le parti d'opposition de droite en Italie, s'ils y arrivent. Pour l'instant, ils ne parlent plus trop d'indépendance ou d'autonomie. S'ils y arrivent, je prends tous les paris qu'ils vont remettre sur le couvert. Et donc, tous ces mécanismes-là sont aujourd'hui en train de se développer. Là où ça me paraît gênant, c'est que en Europe, on est capable de gérer ça. On va pas faire la guerre d'Espagne. Enfin, espérons. Encore que la Yougoslavie, c'était quand même pas très loin de chez nous. Hein. On peut gérer ce bazar-là. On peut le gérer. Le problème, c'est que on est en train de donner droit de cité. Les Français, par exemple, ils étaient très complaisants sur l'Écosse. Ah oui, c'est pas mal, les Écossais indépendants. Ah, les Catalans, c'est vachement bien, les Catalans indépendants. On donne droit de cité.
Mais le référendum de septembre 2014 n'a pas accordé l'indépendance ou l'autonomie.
Oui, mais le référendum de mai 2018 ou 2019, vous verrez.
Il le donnera peut-être.
Ah bah oui, on est sur le fil du rasoir. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on est en train de donner droit de cité à des îles de fragmentation. Et comme on a tendance à dire, l'Occident, c'est fini, l'Europe, c'est une fin de partie, le déclin de l'Empire romain, etc. Moi, je pense le contraire. Je pense que la domination culturelle, technique des pays d'Europe occidentale, des pays développés, est énorme aujourd'hui avec la mondialisation. Or, avec cette histoire-là, on est en train de donner droit de cité. Pourquoi on dirait, oui, les Catalans, c'est pas mal qu'ils soient indépendants. Mais le Xinjiang, les Ouïghours en Chine, non. Or, quand ça va commencer à se diffuser à l'extérieur, ce genre de choses, là, ça va devenir très compliqué. On le voit avec le Donbass, avec l'Ukraine de l'Est. L'Ukraine de l'Est, c'est la même histoire. Rappelez-vous, quand Hitler a attaqué Staline, en 1941, le but de l'opération, c'était de ramasser le Donbass. C'était le cœur industriel de... Mais c'est toujours vrai. En Ukraine, l'Ukraine de l'Est, les russophones, c'est la région traditionnellement riche, industrielle, et qui a financé lourdement Kiev et la région de l'Ouest. On est dans le même type de problématique. Hein. Les gens de l'Est, à tort ou à raison, considèrent que l'Ouest de l'Ukraine n'a pas été très amical avec eux. On voit ce type de problème qu'on peut gérer en Europe de l'Ouest, entre la Flandre et la Wallonie, il y aura au pire trois coups de bâton, mais il y a quand même quelques coups de bâton au passage. Hein. Dès qu'on va déplacer ce type de problème, si on a donné une légitimité à ce type de mécanisme, et si on a une espèce de philosophie, de doctrine idéologique qui se renforce sur toutes ces questions-là, on va au-devant de conflits, parce que l'exportation de ce type de choses dans des pays, on vient de parler de l'Afrique, ça va très vite, hein, ça va très vite, le dérapage.
Une dernière question, très brièvement, vous pensez réellement que quand intérêts économiques et identité sont associés, eh bien la question de la sécession se pose forcément. C'est inéluctable.
C'est pas inéluctable, mais c'est très fréquent. Si vous prenez les grands territoires les plus riches aujourd'hui, prenez Paris, Londres, les régions, hein, prenez New York, prenez Los Angeles, Shanghai, Moscou. Nulle part, vous n'avez dans aucune de ces villes, vous n'avez de mouvements séparatistes. Les Parisiens, les Franciliens, jamais disent on en a marre de payer pour la province. Pourquoi ? Parce que ce sont des creusets extraordinairement divers. Vous trouvez à Paris, il y a moins de la moitié des gens qui vivent en Île-de-France qui y sont nés en fait. Hein, ça brasse. En revanche, quand vous êtes dans le second rang, quand vous êtes dans la poule des Barcelone, des Milan, des Turin, des Glasgow, des Édimbourg, des Bilbao, etc. Là, vous avez et une région qui est riche et une région à forte identité. Et c'est en celle-là qu'effectivement, ça se potentialise avec une demande d'autonomie. Hein. C'est pas forcément que l'indépendance, c'est autonomie, c'est nouvelles règles de fédéralisme fiscal, moins de solidarité, plus grande décentralisation des ressources et des impôts. Et il se passe dans ces territoires, moi j'ai appelé ça pour être un peu désagréable, des métropoles en culotte courte. Et c'est dans ces territoires-là, effectivement, qu'il y a cette potentialisation entre identité réelle, ou parfois un peu bricolé, si vous prenez Milan, et effectivement des régions qui sont en plus contributrices nettes au jeu de la solidarité nationale, là vous avez un cocktail explosif.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent Davezy. Je rappelle que vous êtes professeur au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, spécialiste des affaires territoriales, et que vous venez de publier Le Nouvel Égoïsme Territorial, le grand malaise des nations aux éditions du Seuil. Une semaine d'actualité était réalisée par Sophie Jeannin cette semaine. Une émission que vous pouvez podcaster sur le site de RFI, www.rfi.fr. Bon week-end à tous, très bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur la Radio du Monde.